Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bienvenue à tous dans cette émission Au fil des pages où je reçois Jean-Claude Bologne. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur du livre L'Ange des larmes, paru aux éditions Calman Lévy. Également Pudeur féminine, paru au Seuil. Nous parlons de L'Ange des larmes aujourd'hui chez Calman Lévy. L'Ange des larmes, donc une intrigue. Alors entrons directement dans le sujet, une intrigue dans laquelle nous pénétrons, nous plongeons dans un univers à mi-chemin entre mythes, histoire de France. Est-ce qu'on dévoile l'histoire? Alors l'archange Cassiel, pour avoir contrarié l'une des prophéties du Christ, est condamné à errer, muet parmi les hommes. Il est surnommé l'ange des larmes. Il tente depuis des siècles de contrecarrer les plans machiavéliques des incarnations successives de Satan. Au cœur de cette lutte séculière, il y a un fameux couteau. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce couteau? Tout d'abord, Monsieur Bologne, et puis de l'histoire d'une façon plus générale.
Le couteau m'a été donné par un article de journal des années 1870. C'était le petit déclencheur de ce livre qui a très vite foisonné. Dans cet article, j'apprends qu'un étudiant en droit s'est donné la mort en se plantant dans le cœur le couteau de Ravaillac. Ça fait tout de suite rêver un romancier. Donc j'ai eu envie d'écrire l'histoire de ce couteau. Et je l'ai mêlé à un petit problème de théologie appliquée aux mille et un aspects de la vie quotidienne. C'est une discipline qu'enseignait jadis Maître Ménophos à la faculté de méningite sur aspirine. En l'occurrence, on sait que le Christ a dit à Saint-Pierre « qui use du glaive périra par le glaive ». Or, Saint-Pierre est mort crucifié, il n'a pas péri par le glaive. Donc voilà une prophétie du Christ qui ne s'est pas avérée. Et du coup, il y a une malédiction de ce couteau tel que je l'ai imaginé. Et ce couteau va traverser les siècles jusqu'à ce que la prophétie finisse par être avérée. Et donc, il va finir dans la poitrine de ce jeune étudiant après avoir passé par toute une série de mains, puisqu'il est condamné à tuer des rois, à rompre sans cesse ou à affaiblir sans cesse le lien sacré qui unit la terre et le ciel.
Est-ce que pour écrire ce livre, vous avez fait beaucoup de recherches?
Oui, c'est un livre qui est assez bien documenté. C'est une période qui m'est particulièrement chère, surtout pour des raisons littéraires. Donc le livre se situe en 1873, dans les 10 jours dans lesquels s'est joué le sort de la France. La France qui hésitait entre la monarchie et la République. Et ces 10 jours où le temps s'arrête m'ont fasciné parce que c'est lorsque le temps s'arrête que tout devient possible, y compris le fantastique. Et que les diables, les anges, auxquels je ne crois pas particulièrement, peuvent entrer dans l'histoire et dans la vie des hommes. Donc je me suis beaucoup renseigné sur l'époque que je connaissais un peu, comme tout le monde, un peu de l'extérieur, cette période de l'après-commune. J'ai beaucoup lu les journaux du temps, et ce sont les journaux du temps qui m'ont apporté toute une série de, non seulement d'anecdotes, mais de compréhension de l'histoire. Et puis, comme il s'agit du couteau de Ravaillac qui a tué Henri IV, je me suis pas mal documenté sur l'assassinat d'Henri IV et sur l'histoire de ce couteau, parce qu'il y a en fait une petite vingtaine de couteaux de Ravaillac qui ont traversé l'histoire. Bien sûr, le seul vrai, c'est le mien, mais ça, je suis le seul à le savoir.
Est-ce que l'histoire de France vous fascine, vous influence à ce point ?
L'histoire m'a toujours passionné parce que ma propre histoire m'intéresse assez peu. Je suis fasciné par tout ce qui peut influencer la responsabilité, la pensée, la décision de l'homme et les événements historiques. Toutes les strates historiques que nous accumulons en nous finissent par façonner notre propre façon de voir le monde et de penser le monde. Je suis persuadé que si nous ne nous intéressons pas à l'histoire, nous la véhiculons sans le savoir et nous ne parvenons pas à combattre ces influences occultes que nous portons en nous. La banalité vient de l'ignorance de l'histoire.
Est-ce que la quête du lien perdu entre la langue et la parole vous tient à cœur ?
Ah oui, oui. Je suis un nostalgique de cette parole efficiente, de cette profération de ce moment où l'acte et la parole vont ensemble. C'est le fiat lux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière est. Il suffit de dire et cela est. C'est un vieux rêve de tous les poètes, celui du livre absolu, du mot absolu qui résumerait tout. C'est une quête que je poursuis depuis mes tout premiers romans, que j'ai traduite dans mes précédents romans, dans le mythe du Troisième Testament, c'est-à-dire celui que chaque homme doit écrire pour lui-même et effacer à la fin de sa vie pour que d'autres puissent le réécrire pour eux-mêmes. Ce livre qui contient les réponses à toutes les questions, mais qui, justement pour cela, ne peut pas être écrit. C'est le livre blanc que chaque homme doit remplir lui-même et qui est destiné à redevenir blanc. Oui, je suis fasciné par cela depuis mes tout premiers romans.
Et est-ce qu'au fond, ce ne serait pas un rapport direct avec la liberté de l'homme face à la prédestination, à la providence ?
Oui, je me suis toujours revendiqué comme athée, non pas dans le sens agressif du terme, mais comme la simple et banale constatation que je ne crois pas en Dieu et donc il me faut inventer mon propre destin, ma propre providence. Ça ne veut pas dire que le destin n'existe pas, mais qu'il faut que nous en soyons maîtres, c'est-à-dire que nous l'inventions nous-mêmes. À 50 ans, mon futur est tracé devant moi parce que je n'en suis plus totalement maître. Je véhicule ma propre histoire et c'est pour ça qu'elle ne m'intéresse pas, c'est pour ça qu'elle m'embête. Mais je sais qu'elle va tracer la suite de ma vie. Je crois fondamentalement à la page blanche de la naissance et à la page raturée de la mort. Mais il est aussi important de déconstruire que de construire sa vie.
Une très belle phrase. Et pourtant, vous utilisez énormément de détails liés à la religion. Enfin, nous avons l'impression que vous connaissez diablement bien, si je puis dire, la religion. Alors, athée ou pas ?
J'enseigne l'iconologie médiévale. Et l'iconologie médiévale, c'est 99% d'iconologie sacrée. Donc, j'ai lu, relu 20 fois la Bible. Je connais Thomas d'Aquin ou Augustin d'Hippone certainement bien mieux que la plupart des chrétiens. Ça ne veut pas dire que ça m'a converti. J'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Le mysticisme athée » parce que, effectivement, j'ai eu, quand j'avais 20 ans, des expériences qui dépassaient ma compréhension athée ou agnostique, et que je me suis retrouvé dans certains mystiques médiévaux, essentiellement Rino Flamand, Maître Eckhart, Hedwig d'Anvers, etc. Pour reprendre l'expression de Bataille, je suis tombé dans ces livres comme on tombe dans un puits, et je n'en suis pas sorti. Donc il y a une fascination pour la religion, parce que la religion, depuis l'origine, et l'idée de Dieu, depuis l'origine, a focalisé tout ce qui pouvait permettre à l'homme de se dépasser lui-même. Et ça, effectivement, ça me fascine. En revanche, si je connais un petit peu assez bien la théologie, ou en tout cas la théologie médiévale, ce n'est pas une question de croyance, c'est un bel outil de réflexion, de structuration de la pensée. J'ai une fascination pour la pensée scolastique et cette façon qui n'est pas la dialectique de voir le pour et le contre, de raisonner chaque fois en opposant un argument à un autre et puis en opposant l'autre au premier à l'infini. J'ai une admiration totale pour Abélard, pour son petit recueil « Sic et non, oui et non », où il met en parallèle les arguments d'autorité contraires qu'il a pu trouver dans toute la Bible. Il y a un effort intellectuel extraordinaire dans la scolastique médiévale qui m'a toujours fasciné. C'est pas pour ça que je suis croyant.
Et quel est l'argument qui vous empêche totalement d'y croire ?
Croire n'est pas une question de logique, donc n'est pas une question d'argument. Je constate que je ne crois pas, je constate que ce serait plus simple si je le croyais. J'ouvrirais un tiroir et il y aurait la réponse à la question que je me pose. C'est merveilleux, mais voilà, je me trouve face à ma question et face à mes responsabilités.
Alors je vous conseille « L'ange des larmes » qui paraît chez Kalman Lévy, un livre de Jean-Claude Bologne avec beaucoup, beaucoup d'imagination. Alors comment faites-vous pour avoir autant d'imagination, Jean-Claude Bologne ?
Ah, c'est l'imagination qui m'a, si je puis dire. Non, je ne me pose pas de questions, mais pour moi, l'imagination n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'imaginaire. C'est un formidable réceptacle qui nous vient du fond des âges et dans lequel certaines vérités qui sont peut-être plus profondes et plus solides que la petite vérité d'apparence que nous avons autour de nous, tout cela vient d'un énorme citerne d'imaginaire. Et l'imagination n'est jamais que la mise en contact avec ce potentiel imaginaire qui est dans la mémoire de l'humanité.
Et vous ne trouvez pas justement à ce propos que les hommes rêvent trop peu ou sont trop terre à terre de manière générale ?
Les hommes rêvent énormément, ils rêvent toutes les nuits. Je ne vois pas pourquoi on leur supprimerait tout à coup la moitié de leur temps d'existence sous prétexte qu'ils dorment. Les rêves, le mensonge, tout cela, on ne ment pas par hasard. On ment parce qu'on s'est mis en contact avec ce trésor d'imaginaire qui est véhiculé depuis des siècles. On raconte des histoires, ce n'est pas par hasard. Le roman me raconte beaucoup plus que je ne raconte le roman. C'est tout ça qui me fascine. Et les hommes, j'ai dit beaucoup de fois fasciné, mais je suis vraiment fasciné au sens fort du fascinus latin. Je suis vraiment fasciné par cette faculté qu'a l'homme de vivre ailleurs que dans ce qu'il voit.
Vous avez voulu revisiter l'histoire de la pudeur. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, Jean-Claude Bologne, avant de nous quitter ?
Là, c'est l'autre volet de mon travail d'écrivain. Je ne suis pas seulement romancier, je ne suis pas seulement historien. Je suis les deux en même temps. Et là, donc, c'est un ouvrage, un essai historique qui a pris la suite d'une histoire de la pudeur que j'avais publiée en 1986 et qui est une histoire du comportement. Très vite, je me suis rendu compte qu'il manquait une histoire du sentiment de pudeur. Très vite, je me suis rendu compte aussi que j'avais étudié la pudeur en fonction de nos conceptions modernes de la pudeur. Or, il est beaucoup plus intéressant de voir quelles étaient les conceptions de l'époque et, à travers les concepts de l'Antiquité, du Moyen-Âge et l'époque classique, de revisiter les anecdotes contemporaines à travers la façon de les interpréter qui était celle de leur temps. Donc c'était cela mon projet, et dans cette étude des concepts de pudeur, je me suis rendu compte que notre pudeur moderne, qui est linéaire, qui va de la nudité aux vêtements, de l'impudeur à la pudeur, n'avait absolument pas cours, on avait une pudeur en trois dimensions, jusqu'à une époque très récente. C'est pour cela que j'ai sous-titré cet ouvrage « Voilé, dévoilé, révélé ». Ce qu'on appelait la nudité pudique, la nudité innocente, qui permettait de retrouver la pudeur au sein même de la nudité, comme la coquetterie permet de retrouver l'impudeur au sein même de l'habillement. Cette pudeur en trois dimensions donne tout à coup un autre relief à la pudeur. Je prends le mot relief à dessein, c'est comme si j'étais passé d'une image en deux dimensions à une image en trois dimensions de la pudeur. Et c'est ça que j'ai essayé de retracer, c'est l'histoire de ce voile invisible qui, dans la pudeur féminine, parce que c'était un attribut de la femme, venait se poser sur la nudité d'une femme pudique lorsqu'elle était dévêtue.
Merci beaucoup Jean-Claude Bologne.
Merci à vous.